notre invité ce matin dans le 8:30, Laurent Despieux, bonjour.
Bonjour.
Président de la Chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, toujours président de la FDSEA 04 et FRSEA 04. D'abord, j'aimerais avec vous revenir sur cette étude de l'INSEE qui a été publiée la semaine dernière, qui porte sur le revenu agricole. La conclusion, c'est que les agriculteurs alpins, et particulièrement basalpins, sont les plus pauvres de la région, 1600 euros par mois. C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on ne vit plus de l'agriculture ou c'est selon la spécialité qu'on n'en vit plus?
Alors de manière structurelle, en termes de revenus par exemple, on sait que l'élevage a toujours été en dessous du niveau de rémunération des autres productions. Depuis maintenant 3 ans, depuis d'ailleurs le moment où nous avons bloqué les autoroutes, on avait identifié que l'augmentation des coûts de production, notamment en arboriculture, en maraîchage et sur toutes les autres filières, amenait aussi des crises de revenus dans l'agriculture. Moi je crois que de toute façon le débat, on l'a posé il y a un an. Il faut travailler sur une meilleure revalorisation des productions agricoles. Il faut que le revenu vienne de nos produits. Il faut nous donner des moyens de production. Et il faut libérer les énergies en termes d'inflation administrative, je dirais, pour que nous puissions passer du temps dans nos champs, travailler, accompagner les agriculteurs à se structurer.
Bon, moins de lourdeur administrative.
Et à vendre. Mais il faut vendre nos produits. C'est-à-dire que lorsque les données agresses disent pour 100 euros de produits alimentaires achetés n'importe où, il y a moins de 7 euros qui reviennent à l'agriculture, ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus, il faut renvoyer de la marge et renvoyer de la valeur à la production agricole.
Il y a eu le Salon international de l'agriculture à Paris, cette grand-messe de l'agriculture qui revient chaque année dans la capitale et pour autant toujours les mêmes problématiques qui reviennent chaque année. On a l'impression quand même que c'est une grande ferme à Paris, c'est chouette, c'est bien, on y va, mais pour autant, c'est toujours la même chose.
Je crois que le problème, il est beaucoup. Je le disais, c'est un problème structurel. D'abord, on a une politique agricole commune qui est partie dans une démarche avec le farm to fork, qui est en gros une sorte de décroissance, c'est-à-dire qu'on a mis l'environnement au-dessus de l'agriculture et au-dessus de tout, ce qui fait qu'on n'encourage pas la production dans la politique agricole commune. On a aussi notre Madame van der Leyen qui a une position qui est absolument pas claire, c'est-à-dire que d'un côté, elle a fait une campagne la première fois et elle a continué de travailler en disant l'Europe va être le grenier du monde en termes de captage de carbone. Donc on a impacté l'agriculture en la faisant plus produire et puis à côté de ça, on se retrouve à aller signer des accords du Mercosur pour avoir une variable d'ajustement avec des productions agricoles. Et je crois que c'est la politique agricole qui pose un problème, c'est-à-dire qu'il faut arrêter mon président national dirait d'être naïf, c'est-à-dire qu'on est dans un marché où on voit, ce matin je voyais Donald Trump qui va mettre 25% de droits de douane sur les productions, où on va être impacté sur le lait, on va être impacté sur le vin, sur le marché des huiles essentielles, qui est sur notre marché régional, nous c'est à plus de 80% l'export. Et à côté de ça, on a une Union européenne qui laisse passer comme ça, qui va faire le CETA, le Mercosur, où il n'y a pas d'équilibre dans les moyens de production et dans les réglementations, qui font qu'on a des distorsions même de concurrence entre nous, et qui font qu'on est dans cette situation, on ne s'y retrouve pas.
C'est plus, vous disiez, c'est un problème structurel, j'allais dire, c'est plus un problème politique aujourd'hui, politique mais européenne.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que je dis que c'est structurel parce qu'en fait, il faut un changement de la politique générale de l'Union européenne vis-à-vis de l'agriculture.
C'est-à-dire maintenant, on ferme tous ces traités de libre-échange avec le monde entier, on arrête ?
Non. Moi, d'ailleurs, il faut pas faire ça parce qu'aujourd'hui, l'export nous sert aussi. On parle de la viticulture, mais je pense aux huiles essentielles, je pense qu'il y a des marchés où l'export est important pour nous. La question, c'est de plutôt dire comment on protège notre production. Je crois qu'aujourd'hui, on est en capacité de produire et d'alimenter en circuit court, mais le circuit court, c'est pas que du producteur au marché de Gap, au marché de Manosque ou de Digne. Le circuit court, ça peut être de travailler avec les entreprises, d'apporter la transparence avec les entreprises, de travailler sur des modèles. Dans mon département, 40% des entreprises sont des entreprises de l'agroalimentaire, avec des produits qui sont consommés chez nous. J'aimerais savoir quels sont les volumes de production locale qui sont mis dans ces produits. Si nous n'arrivons pas à les mettre, pourquoi? Est-ce que c'est des problèmes de transformation? Est-ce que c'est des problèmes de normes
liées? Pour l'instant, on ne sait pas.
On ne sait pas, c'est pour ça qu'il faut y travailler. Mais je crois que il faut aller chercher de la valeur ajoutée sur la production agricole. Il faut accepter aujourd'hui que notre production a une valeur et on ne peut pas continuer de garder l'agriculture en disant c'est une variable d'ajustement pour vendre de l'énergie, pour des terres rares. Notre problème, il est là, c'est que l'agriculture a une valeur. En fait, on utilise la captation de richesses dans des produits où il n'y a que l'agriculture, finalement, pour faire des échanges commerciaux qui nous tuent, nous, en France.
Est-ce que les normes vous tuent aujourd'hui en France? Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler avec ces traités de libre-échange en disant mais oui, bah alors les autres ils vont vendre chez nous, mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes normes, et nous par contre on est extra-normés.
En fait, la norme est une bonne chose parce que ça garantit une excellence, et la norme peut garantir aussi la protection du consommateur. Donc en fait, c'est l'excès de zèle vis-à-vis de la norme qui pose problème. Aujourd'hui, les normes ont permis de faire en sorte que l'agriculture de France est aujourd'hui la plus vertueuse au monde. Toutes les statistiques le disent. Le vrai sujet, c'est qu'on se retrouve dans des situations où... Moi, je prends des exemples concrets. L'autre jour, je discutais avec un agriculteur, il me dit « Vous êtes profito ». Je dis « Non, je ne suis pas un profito. D'ailleurs, je suis un agriculteur biologique. Je dis juste que lorsqu'on a des cultures emblématiques, je pense à la lavande, je pense à la cerise, je pense à des productions de maraîchage, parce que dans le maraîchage, vous avez beaucoup de petites productions, où... Très souvent, nous n'avons pas de subsidiarité aux produits phyto, nous n'avons pas d'alternatives techniques qui permettent de pouvoir répondre aux enjeux. C'est-à-dire, il faut préserver ces productions parce que lorsque vous les handicapez en appliquant une règle en disant « il faut retirer ce produit ben », vous vous retrouvez avec des cerises qui sont plus produites dans le Vaucluse et qui viennent de la Turquie avec le même produit que vous interdisez chez vous. Il est là le sujet. Donc la norme est un bon problème quand elle est appliquée de la même manière pour tout le monde. Et le sujet est là, en fait. C'est pas la norme qui pose problème, c'est la distorsion de l'application de la norme. Et quand vous avez des productions maraîchères où on vous dit « je vous retire des produits », que au même moment, vous avez l'Espagne qui débarque avec des produits, vous pouvez pas vous battre. Parce que forcément, un coût de production, vous passez pas.
Vous parliez des produits phytosanitaires. Récemment, sur Alpes, on a parlé des néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, qui seront réintroduits en partie. Hein, en tout cas, le Parlement a voté pour. Ça nous concerne pas. Enfin, ça concerne pas des cultures qui sont haut ou bas alpines, parce que c'est plutôt pour les cultures de betteraves. Voilà. Pour autant, c'est un mauvais signal qui est donné.
Ben, le problème, là encore, on en revient à la politique européenne. C'est-à-dire qu'on fait une politique à un effet balancier, c'est-à-dire qu'on le consommateur, et moi je comprends, qui dit « je veux avoir autour de moi des terres qui soient moins traitées, je veux que les agriculteurs travaillent avec beaucoup plus de vertus, j'allais dire agronomiques et biologiques avec les produits synthèse ». Le vrai sujet, c'est qu'en face, on n'a pas mis la politique qu'il fallait pour permettre aux agriculteurs de passer ce cap.
Quand vous dites politique, c'est pas assez d'aide ?
Non, il peut y avoir de l'aide. Pour moi, il faut mettre de la recherche et développement et des moyens. Par exemple, moi récemment, pour pallier à mes problématiques de main-d'œuvre et de mauvaises herbes dans les plantes aromatiques, j'ai acheté une machine qui permet d'arracher l'herbe et de pouvoir économiser en termes de main-d'œuvre, parce que lorsque j'arrachais dans mes plantes aromatiques l'herbe à la main, j'étais à, mettons, 180 heures à l'hectare. Mmh. Ce qui fait que je n'étais pas compétitif avec les Polonais ou même parfois avec des gens qui ne sont pas... Et la problématique, c'est qu'il faut mettre de la recherche et développement. Je pense que nous, en termes de production et d'agriculture, il faut qu'on travaille sur des stratégies plus mutualisées en termes de matériel à haute technologie. Je pense à la robotique, je pense à peut-être à des bineuses avec des caméras qui interagissent avec l'intelligence artificielle pour désherber les sols. Mais l'accès à ces machines aujourd'hui est tellement cher que vous ne pouvez pas être compétitif par rapport aux produits phyto. Donc ça veut dire qu'il faut... Et dans la recherche et développement, il y a les outils de biocontrôle et compagnie. Il faut mettre des moyens dans la recherche et développement pour qu'on puisse se substituer à ces produits phyto.
J'entends aussi dans votre discours que vous souhaitez peut-être mieux organiser les filières dans le département. Vous parliez du matériel, pourquoi pas en effet se mutualiser pour avoir du matériel disponible, mais pas que. Il y a aussi cette question des filières qui se pose, et dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes-de-Provence.
Je reste persuadé, on a une des plus belles filières aujourd'hui régionales, par exemple je pense à l'élevage et le pastoralisme, qui est à la fois vertueux en termes d'approche agricole, puisqu'on est sur de l'élevage plutôt extensif, avec quand même une plus-value, que ce soit pour le tourisme, que ce soit pour la montagne avec la neige, que ce soit en termes de qualité de produit. Et c'est vrai que je pense aujourd'hui que dans notre région et dans nos départements, alors il y a des structures qui sont plutôt bien, des filières qui sont plutôt bien structurées. Je pense à l'arboriculture, je pense par exemple même sur la filière lavandicole où on a et même céréalière où il y a des coopératives. Mais je crois qu'il faut que nous soyons aussi en capacité, nous, de travailler sur des formes de structuration entre les gens plus individuels, les coopératives, et aller chercher des moyens pour transformer, pour produire des agneaux de qualité et mettre en avant ce qu'on a de plus beau, parce qu'en fait on a une vraie diversité et une vraie diversification dans notre région qui correspond aux attentes des consommateurs et des citoyens. Et il faut qu'on accentue cette mise en avant et cette plus-value qu'on apporte à nos territoires.
Vous avez parlé de la filière lavandicole, justement, la lavande qui pourrait être inscrite, la discussion se fait dans les Alpes du Sud, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un bon signal ?
C'est un c'est un bon signal, parce que là aussi, je pense que l'agriculture, souvent, on se cantonne à nous, agriculteurs, alors que finalement, on a beaucoup de personnes qui interagissent avec l'agriculture. Vous avez le tourisme, vous avez l'hôtellerie, vous avez le milieu parfois de la culture aussi, vous avez les musées, vous avez... Et je crois que de travailler au travers de l'UNESCO et la lavande nous permettrait aussi de remettre le patrimoine historique sur les territoires, historiques. Et on voit une délocalisation de la production sur des secteurs, je pense notamment dans le Réloir ou d'autres territoires en France. Et c'est vrai que en travaillant sur l'UNESCO, on pourrait garder à la fois l'aspect patrimonial, l'aspect historique, et mettre en avant tous nos territoires au travers de l'UNESCO. Et en plus, c'est un patrimoine mondial.
L'agriculture est-il un secteur sous tension ? Est-ce qu'on trouve suffisamment de main-d'œuvre ? Et je vais amplifier la question nationale pour pouvoir subvenir aux besoins justement des exploitations.
Oui, l'agriculture est en tension en termes de recherche de salariés. D'ailleurs, c'est une situation que l'on vit pas que dans l'agriculture. Hein. On voit ça aussi dans l'hôtellerie, dans toutes les entreprises de l'artisanat, les TPE. Nous, notre position, elle est claire. Ce qu'on souhaite, c'est dans un premier temps travailler sur l'accompagnement en travaillant avec des associations qui s'occupent et qui travaillent pour la réinsertion sociale, que ce soit aussi avec des associations où nous travaillons avec les réfugiés politiques. Notre volonté, c'est de tout faire pour que nous puissions avoir des dispositifs qui nous permettent de répondre à ce besoin de salariés et de constituer des équipes pendant les saisons de récolte. Point faible, c'est que nous avons besoin d'un volume de personnes très importante dans des périodes très précises, dans des moments de récolte et avec des particularités qui sont orientées aussi par les contextes du temps, par les problématiques climatiques. Donc c'est pour ça aussi que nous travaillons sur des contrats et des partenariats avec, par exemple, des pays comme le Maroc, avec là comme objectif toujours le même, celui de renforcer la sécurité des salariés, de renforcer la sécurité des employeurs et toujours faire en sorte que dans la manière dont nous concevons l'embauche de travailler sur tout ce qu'il faut pour respecter à la fois toutes les conditions de dignité et de sécurité de notre personnel et faire en sorte aussi que tous les dispositifs soient mis en place pour que nous puissions répondre à cet enjeu qui devient primordial pour l'agriculture, c'est répondre en besoin de main-d'œuvre et de personnel, donc d'embaucher un maximum de salariés pour pouvoir faire le boulot nécessaire dans les champs et pouvoir répondre à ce manque de main-d'œuvre.
Durant cette campagne pour la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, on a beaucoup entendu parler, les concurrents, coordination rurale et autres, de déconnexion. La FDSEA et les JA sont déconnectés de la réalité agricole. Aujourd'hui, c'est quoi votre réponse ?
Ben, ma réponse, c'est que déjà sur le 05, alors je ne parle pas du président Jousselme, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore agriculteurs. Dans ce qui nous... Moi, par exemple, le candidat que j'avais en face de moi a fait une campagne en disant « je suis 100% agriculteur » et il vendait des tracteurs dans le 05. Donc, je veux bien qu'on me remette en cause mon intégrité, mais je pense que voilà, il y a des fois où il faut aussi balayer devant sa porte. Après, je pense que de toute façon, si les agriculteurs ne sont pas retrouvés dans leur travail, c'est que, un, on n'a pas bien fait savoir ce qu'on faisait. Et deuxièmement, c'est que, quelque part, les gens ont aussi raison. Hein, c'est qu'il y a peut-être une partie du boulot qu'on n'a pas fait. Sinon, les gens ne seraient pas partis ailleurs. Donc, je pense que, voilà, il faut qu'on reparte sur le terrain. Il faut qu'on remette au cœur des fermes, je pense, les syndicats, les chambres d'agriculture.
Comment vous allez le faire ?
Je pense qu'il faut faire du terrain. Moi, j'avais commencé ça à la Fédé. Et pendant la campagne, j'ai fait 23 jours de réunion cantonale et 23 jours de déplacement sur le terrain où j'ai rencontré en moyenne 4 paysans par jour, 4 fermes. Et en fait, je m'aperçois que les gens ont accès à Internet et nous, on était habitués à les inviter en réunion et leur dire « venez nous voir, on va vous parler ». Et je crois qu'aujourd'hui, la société a évolué, c'est-à-dire qu'elle a accès à l'information et elle a peut-être besoin aussi qu'on aille la voir. Et que finalement, parfois, ils peuvent se retrouver sans nos structures, ils ont accès à d'autres choses. Et puis, je crois qu'il y a aussi une défiance du monde politique, du monde syndical. Nous, on est une vieille maison avec un président qui a... Voilà, notre président, on a entendu tout et son contraire sur Avril, sur le fait que c'était un industriel. Donc, je pense qu'aussi, il y a eu tout un effet de déclinaison qui nous est retombé dessus. Et puis, on le voit dans les partis politiques. Je pense qu'il faut qu'on voilà, qu'on reparte aux fondamentaux et qu'on essaie de redonner la confiance aux gens.
Retrouver de la cohérence en retournant sur le terrain, ce sera l'un des chantiers de Laurent Despies. Merci d'avoir été avec nous ce matin, président de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence.
Merci à vous.